Des combats de rue en plein centre de Londres. Des groupes d'extrême droite ont affronté ce week-end les forces de l'ordre en marge d'une manifestation à la mémoire de l'Américain George Floyd. Les hooligans s'étaient rassemblés devant le Parlement pour protéger la statue de l'ancien Premier ministre Winston Churchill. Récemment tagué, le monument a été recouvert d'un sarcophage pour qu'il ne connaisse pas le même sort qu'Edward Colson. À Bristol, la statue de cet ancien marchand d'esclaves a été vandalisée et jetée à l'eau. Depuis la mort de George Floyd, ces scènes se multiplient. Aux États-Unis, Jefferson Davis, le président des États confédérés pendant la guerre de sécession, a été déboulonné. Christophe Colomb, décapité, accusé de racisme envers les peuples amérindiens. En Belgique, le buste de l'ancien roi des Belges, Léopold II, a été recouvert de peinture rouge sang près de Bruxelles. En France, plusieurs figures historiques se retrouvent au centre de cette polémique mémorielle. Faut-il déboulonner Jean-Baptiste Colbert, l'ancien ministre de Louis XIV, auteur du Code noir qui a organisé l'esclavage dans les colonies françaises? Faut-il renommer toutes les écoles Jules Ferry, au motif que le père de l'école pour tous est un des théoriciens de l'expansion coloniale? Alors, ce qui valait pour Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe, ou Lénine après la chute du mur, peut-il se justifier en temps de paix? Des manifestants peuvent-ils s'arroger le droit de déboulonner des personnages historiques? Comment réconcilier toutes nos histoires, toutes nos mémoires?
Je voudrais comprendre et savoir s'il existe une différence entre le mouvement de déboulonnage actuel et d'autres manifestations du même type qui seraient survenues dans l'histoire récente. Emmanuel Furex, effectivement, dans l'histoire récente, on pense par exemple aux vaincus des guerres comme Saddam Hussein après la guerre en Irak, ou aux vaincus des révolutions politiques comme les statues de Lénine après la chute du mur. Quelle est la particularité de ce qui se passe aujourd'hui, sachant qu'on n'est ni en temps de guerre, ni en temps de révolution? Qu'est-ce qui joue
alors,
en ce moment?
Tout dépend de ce qu'on appelle histoire récente. Mmh. Si on remonte deux siècles en arrière, l'iconoclasme était un mode d'action sur l'histoire. Et pendant la Révolution française, il a été très très largement pratiqué pendant les révolutions du 19e siècle également. Si on se situe dans un temps un petit peu plus court, de fait, on a eu une accélération et une singularité dans ces dernières années, non pas tellement après 2017, les événements de Charlottesville, mais plutôt...
Charlottesville aux États-Unis, en Caroline du Nord.
Exactement, mais plutôt après 2015, en Afrique du Sud, avec le mouvement Cecil Rhodes Must Fall, c'est-à-dire cet appel à déboulonner les statues du colonisateur Cecil Rhodes. Et ce qu'il y a de singulier, c'est la circulation des images à l'échelle internationale, qui est presque simultanée et qui, à travers des gestes spectaculaires, provoque une onde de choc qui devient mondiale, avec un arrière-plan global qui est celui évidemment de la décolonisation. On en reparlera sans doute tout à l'heure de l'espace public.
Le chiffre du jour, Vincent?
Oui, le chiffre du jour, c'est 11. La présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis, Nancy Pelosi, appelle au retrait de 11 statues de confédérés, donc ces sudistes favorables à l'esclavage, et qui sont aujourd'hui, ces statues, au Capitole américain. Alors, Maboula Soumaoro, je crois que vous êtes favorable à ce que propose Nancy Pelosi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
Oui, favorable, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis pour ou contre, c'est pas la question.
Alors je vous demande si vous êtes favorable, c'est ma question.
J'y ai réfléchi, et en tout cas je ne suis absolument pas outré, je ne suis pas du tout non plus scandalisé par le retrait de ces statuts. Là, si je réponds à votre question dans le contexte des États-Unis, évidemment qu'il y a eu une guerre, c'est la guerre de sécession, donc entre les États confédérés et les États-Unis d'Amérique, et évidemment pour les États-Unis d'Amérique de voir célébrer encore dans des États du Sud, des personnes qui ont été reconnues comme coupables de sécession, évidemment qu'il y a un problème au niveau de la constitution du récit national. Donc, et sans compter le fait que les États du Sud et les confédérés étaient des États esclavagistes et racistes, je pense qu'il est bienvenu de questionner au moins cet ornement public et ce récit national là, tel qu'il se déploie dans les rues des États-Unis et même du Sud des États-Unis.
Thierry Lenz, là, Nancy Pelosi propose une décision politique, mais on voit aussi des événements qui sont des effets de foule, avec des statuts qui sont déboulonnés sans qu'il y ait eu de décision de concertation civique. Quel regard vous portez là-dessus?
Je crois que c'est un petit peu le problème de la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que pourquoi ne pas discuter? Pourquoi ne pas essayer de trouver des solutions? Pourquoi ne pas en mettre quelques-uns dans les musées ou pas? Je n'en sais rien, ça je ne me prononce pas là-dessus. Simplement, tout le monde a bien compris que l'action spontanée ne correspond pas à l'idée qu'on peut se faire de l'état de droit, de la nécessité d'en débattre, d'en discuter, parce qu'après tout, ce sont des histoires, d'une part, qui sont anciennes, ce sont des personnages qu'on stigmatise, mais qui n'ont pas fait que ça. Hein, c'est-à-dire que il faut aussi essayer de voir pourquoi on avait érigé ces statues, pourquoi à cet endroit, par exemple pour Colbert au Palais Bourbon, pourquoi Napoléon ici ou Napoléon là. Il faut en discuter, il faut...
On le fait passer, vous voulez dire que ces statuts, écoutez, pour le coup, ne sont pas accompagnés.
Alors moi, ça fait 25 ans que je suis dans le secteur, ça fait 25 ans qu'on m'en parle. Hein, donc c'est absolument pas nouveau, ça vient pas d'arriver. Il y a eu dans les années 2004-2005 un grand débat sur Napoléon et l'esclavage. Donc vous voyez, c'était déjà il y a 15 ans. Ce débat, il n'a pas été fui par les historiens napoléoniens. J'entends dire sans arrêt, faut revisiter, faut aller, etc. Mais on n'arrête pas de revisiter.
Mais pour recontextualiser un peu peut-être l'émergence de ce débat que vous avez raison de rappeler en 2004, il faut aussi rappeler que 2004, c'était le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et on sait que les troupes napoléoniennes, j'ai toujours du mal, excusez-moi, ont été défaites. À Saint-Domingue. Et donc cette célébration, bien sûr, de la figure de Napoléon, dans sa gloire et dans sa conquête, notamment européenne, laissait de côté, ou laisse de côté pour certains, cette défaite cataclysmique dans la Caraïbe. Et on parle de Saint-Domingue, donc la perle des Antilles, avec une utilisation qui reposait totalement sur l'esclavage. Et c'est Saint-Domingue, l'économie de Saint-Domingue, c'est l'équivalent de l'économie du Koweït aujourd'hui. Un rapport de 2004 avait mis en avant donc la figure de Napoléon. Elle peut être...
Simplement, complètement d'accord. Oui. Hein. Moi, je suis dans les historiens napoléoniens, le premier qui en a fait des chapitres entiers. Hein. Je veux dire qu'on vient de pas me dire je nie ou quoi que ce soit.
C'est-à-dire à ne pas nier la complexité précisément d'une figure multifacette.
Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous citez René Raymond, je le vois, l'histoire, c'est l'apprentissage de la complexité. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. L'histoire, y compris d'Haïti, y compris par les historiens haïtiens, après la
défaite napoléonienne,
se discute énormément.
Emmanuel Furex, un des mots que l'on entend sur ce sujet de déboulonnage de statues, c'est celui d'anachronisme. C'est-à-dire qu'on regarde l'histoire d'hier avec nos principes du présent. Est-ce que cette critique est recevable, selon vous ?
Cette critique est recevable quand on envisage l'héritage historique d'un personnage, et on peut en effet écrire de très longues pages sur le rapport très complexe de Jules Ferry ou même de Jean Jaurès à la colonisation. Cette question est déplacée quand on traite de statues, parce que des statues, ce ne sont pas des livres d'histoire. Ce sont des marques de grandeur. C'est effectivement un récit national, mais un récit national qui diffuse une morale.
C'est-à-dire qu'on est dans la mémoire, on n'est plus dans l'histoire avec les statues ?
Absolument, et dans un système de gloire. Et dans ces conditions...
Une célébration.
C'est une célébration. Et dans ces conditions, qu'il y ait une discussion sur la validité ou non, et la permanence ou non, de la valeur représentée par le personnage, ça me semble intéressant. Je ne l'appliquerai évidemment pas au cas de Jules Ferry ou de Jean Jaurès, dont les attributs, par ailleurs, sont suffisants pour qu'on les célèbre et qu'on les statufie. Mais
pour Colbert, ce serait valable, par exemple. Selon vous, ça serait valable
pour Colbert ? Ça peut en tout cas se discuter. Ça dépend aussi, c'est quelque chose de très important, de la fonction de la statue et de son rapport à l'espace environnant. Parce que c'est un être social, une statue, et donc on ne peut pas l'envisager indépendamment des interactions avec les habitants.
Le ministre est un homme politique. Est-ce que c'est à la politique de décider quel doit être le paysage mémoriel dans lequel nous vivons ?
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est la politique qui a décidé. Je ne sais pas qui est en charge de l'érection de ces monuments ou de ces statues. Enfin, d'où viennent-elles ? Qui les décide ? Là, on est peut-être à un moment où, on va dire, le peuple, pour rester très simpliste, s'insère, en tout cas dans ce discours politique, et renégocie cette présentation de la mémoire ou du récit national. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé du déboulonnage de statues, toujours en faisant des pas de côté, en parlant de l'étranger, mais avant de repartir en 2015 en Afrique du Sud, on aurait très bien pu parler des années 90, c'est comment dire, le fait que la statue de Joséphine ait été décapitée en Martinique. Donc ça, c'est dans la zone française. Et là, Schœlcher, c'était lors des dernières commémorations de l'abolition de l'esclavage. C'était à la fin du mois de mai. Voilà, ça, ça fait toujours moins de bruit que ce qui peut se passer en Afrique du Sud ou dans le sud des États-Unis. Je trouve que c'est révélateur par rapport à notre rapport à cette histoire, histoire de la colonisation et de l'esclavage.
Mais est-ce que vous admettriez qu'on essaye d'en discuter sereinement et qu'on essaye de voir les vrais faits historiques? Je pense à la statue de Joséphine, par exemple, parce que je suis un peu concerné.
Je répète, Joséphine de Beauharnais.
Pour Joséphine n'a jamais rien eu à voir avec ni le rétablissement de l'esclavage, ni l'exploitation des esclaves, puisqu'elle a passé un temps assez réduit là-bas.
Oui, mais comme on l'a expliqué, c'est une question, c'est la mémoire et l'histoire. Sauf que dans les rues, c'est la mémoire de la France qui se déploie,
pourquoi,
et non pas l'histoire.
Pourquoi, avant d'aller casser la statue, on ne peut pas essayer de discuter, de faire le...
Mais parce qu'il n'y a pas eu de discussion au moment de l'érection de ces...
Vous parlez du peuple qui s'insère, là, qui arrive dans le débat. Ce n'est pas le peuple qui arrive dans le débat, c'est une partie du peuple.
Une partie du peuple qui était inagible au moment
où ces statues ont été érigées. Il y a des modes d'action qui... Je suis désolé, bon, je réprouve de la façon la plus formelle. Si on veut que le peuple s'insère, il faut d'abord que le peuple sache. Alors, c'est facile. Là, j'entendais dans le commentaire tout à l'heure, évidemment, sur le code noir, tous les clichés sont possibles.
À propos de Colbert, là, c'est
ça. À propos de Colbert. Il y a des tas d'études qui ont été faites, qui ont été, évidemment, on leur a craché dessus, etc. Mais simplement pour démontrer que le code noir n'est pas la création de la chose, c'est l'édulcoration des méthodes qui étaient utilisées par les esclavagistes. Alors, c'est pas audible. J'ai bien compris que ça n'était pas audible, mais c'est quand même la réalité historique. Je veux dire, la réalité historique n'est pas toujours, ne va pas toujours dans le sens du vent.
Emmanuel Furex, si on prend un événement récent, qui est le déboulonnage de la statue de Victor Schœlcher, qui est donc un abolitionniste, mais qui a vu sa statue déboulonnée parce qu'il était blanc. Est-ce qu'on ne tombe pas dans une racialisation du débat?
Pas seulement parce qu'il était blanc.
Alors, c'est un des risques potentiels, mais l'argument qui avait été invoqué n'était pas celui-là. Hein. C'est que, selon ses détracteurs, il n'aurait pas suffisamment combattu pour obtenir l'indemnisation des esclaves et non pas l'indemnisation des planteurs. Son rôle dans l'affaire en particulier est fortement discuté. Il a essayé. Là, il y a de toute façon un désaccord profond dans la sphère des militants antiracistes sur cet acte qui est probablement, en tout cas à mon sens, aller beaucoup trop loin. Mais je voudrais revenir aussi toujours sur l'importance de la statue elle-même, c'est-à-dire la forme statuaire. La statue de Schœlcher, une des deux statues qui ont été déboulonnées, présentait la figure de Schœlcher guidant un enfant vers la liberté. Et évidemment, cette forme de paternalisme a été peut-être difficile à supporter dans un espace colonisé. Peut-être peut-on se réjouir. Moi, je souhaite la réérection d'un autre monument à Schœlcher, mais penser avec notre regard du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il y a une sédimentation, effectivement. Il faut réinventer en partie ce patrimoine statue.
On pourrait dire que ces statues discutées, controversées, n'est pas dans la rue ou dans l'espace public. Peut-être est-elle dans les musées. En tout cas, il y a plusieurs militants et plusieurs historiens qui plaident dans ce sens. En 2012, déjà, une tribune qui avait été publiée dans le journal Libération et portée, entre autres, par l'historien Pascal Blanchard. Elle avait été signée notamment, qu'on connaît bien ici, elle avait été signée notamment par le philosophe Achille Bembé ou encore par Christiane Taubira, ex-ministre. Et cette tribune revendiquait la création d'un lieu unique ambitieux dans sa programmation, grand public dans ses objectifs, c'est-à-dire un musée global des colonisations qui ne concernerait pas que les populations noires, c'était les mots de la tribune, mais qui traiterait également des anciens appelés d'Algérie, d'Indochine, des eaux humains, des pieds noirs, des ultramarins. Et chacune de ces tribunes, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ces dernières années. Elles ont rappelé qu'ailleurs, en Europe et dans le monde, il y a des lieux similaires, assez similaires, qui existent. Les États-Unis, par exemple, ont ouvert il y a 4 ans le Musée national de l'histoire de la culture afro-américaine. Ça avait été inauguré à Washington par Barack Obama. Plus près de nous, en Europe, la Belgique, les Pays-Bas ont leur musée de la colonisation. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est l'idée. Tout comme à Liverpool ou encore à Bristol, au Royaume-Uni. Et c'est d'ailleurs dans ce musée que la statue qui a été déboulonnée la semaine dernière pourrait sans doute finir. Et en France, comme le souligne avec une certaine malice les promoteurs de ce projet, on a 12 musées du sabot et 0 musée des colonisations. Je m'appelle Assoumaoro. Est-ce que c'est la bonne solution et qu'est-ce que ça apporterait, un musée comme ça? Et dernière petite question, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas en France, effectivement? Pourquoi ça se pose un problème?
Alors qu'il y en a partout.
Enfin,